www.rockkick.com, MSN, Skype. Alors, le live, rockkick.com, MSN ou encore pour Skype. Pour nous écrire de façon interactive, nous dire salut, bonjour et peut-être poser aussi des questions à Anne-Marie Delcambre, le père Samuel et Joanne Bourlard qui sont avec nous via, bien sûr, Skype. Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien, Ismaël, bonjour.
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme.
On est en pleine forme, on est dans l'obscurité à cause d'éclairage, mais ça va quand même.
Ah, vous êtes dans... Oh, oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Et il est quelle heure présentement chez vous en Belgique?
14h05.
Il est 14h05. Je vous demanderai juste une chose parce que j'ai un retour de son. Probablement que vous avez quelque chose d'allumé de votre côté qui fait que je m'entends.
Oui,
là.
On éteint tout de suite, attendez.
Ce serait gentil, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je me demande sincèrement qu'est-ce que nous réservent nos amis de Belgique, de quel sujet ils vont aborder, vont-ils aborder aujourd'hui? Est-ce que le père Samuel est présent aussi?
Oui, oui, je suis là. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, père Samuel. Vous aussi, vous êtes en forme aujourd'hui?
Avec plaisir, oui, très bien.
Alors, peut-être de commencer avec vous, père Samuel. Est-ce que, ou peut-être avec Anne-Marie Delcambre ou encore avec Joanne Bourlard, de quoi voulez-vous nous parler? Qu'est-ce que vous voulez, quelle table voulez-vous mettre aujourd'hui, quoi?
Eh bien, nous allons vous parler d'Israël parce qu'il y a eu un salon du livre en France où l'invité d'honneur, c'était Israël. Et comme tout et n'importe quoi se dit à propos de ce petit pays, on va essayer de lui rendre justice. Vous savez qu'il y a eu une pression des pays arabes pour boycotter le salon du livre en France sous prétexte qu'il ne fallait pas que Israël, qui est diabolisé dans le monde arabe, soit invité d'honneur du salon du livre. Alors je crois qu'on peut demander au père Samuel ce qu'il pense de ce droit d'ingérence des pays arabes concernant ce que fait la France dans son salon du livre.
Exactement.
Eh bien, cette année, nous fêtons 60e année de l'État d'Israël. L'État d'Israël est constitué au milieu de 300 millions d'ennemis, des barbares, des arabo-musulmans. Leur but, vraiment, de démolir l'État d'Israël. Et nous sommes très inquiets. Nous devons aider Israël parce que le seul État démocratique en Orient, c'est l'État d'Israël, heureusement. Donc, il faut méfier de l'islam qui entoure l'État d'Israël. L'État d'Israël doit rester absolument. Leur but de démolir cet État démocratique, comme les Mamelouks ont démoli l'État latin à Jérusalem.
Je voudrais juste ajouter que là, ça fait référence à un article de Daniel Pipes qui a écrit dans Wall Street Journal le 18 janvier 2002, « Les Arabes n'ont pas renoncé à détruire Israël ». Et on voudrait vous expliquer que ce n'est pas du tout une haine politique, ce n'est pas du tout une haine dirigée contre le sionisme. En fin de compte, le fait que les Arabes ne supportent pas la présence d'Israël a des racines profondément religieuses. N'est-ce pas, Monsieur Bourlard?
C'est exact. Dans le Coran, on rencontre l'expression « Banu Israël » une quarantaine de fois. Banu Israël, que signifie cette expression? Ça signifie « fils d'Israël » ou « enfant d'Israël ». Cette expression apparaît dans le Coran, surtout dans la première période mécoise, période durant laquelle Mahomet est un simple prédicateur. Et au départ, il emploie cette expression pour interpeller les Juifs en leur disant « Oh, fils d'Israël, vous qui avez reçu la loi de Moïse, écoutez-moi, parce que moi aussi je veux être un prophète dans la lignée de Moïse, donc écoutez-moi. » Mais il se fait que les Juifs, appelés jusque-là « Banu Israël », n'écoutent pas Mahomet. Ils disent « Mais enfin, tu n'es pas présent, tu n'es pas un vrai prophète, personne n'a prédit ta venue, nous on n'a pas été à t'écouter ». Et c'est à ce moment-là que Mahomet, blessé de voir que les Juifs ne l'écoutent pas et même le méprisent, Mahomet commence tout doucement à les mépriser lui aussi et à leur vouer une certaine haine. Et c'est à ce moment-là que les fils d'Israël donc commencent à être appelés tout simplement Yahoud, c'est-à-dire Juifs. Et ce terme de Yahoud va garder une connotation très péjorative dans le Coran et dans l'imaginaire arabo-musulman.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a 670 versets sur plus de 6200 qui parlent des fils d'Israël. Mais comme le dit très bien Joanne Bourlard, ces versets sont dispersés dans près de 26 sourates sur 114, soit 22,8% des sourates. Et c'est vrai qu'à la Mecque, on parle des fils d'Israël. Et je crois qu'au début, il s'agit bien des Hébreux, des Juifs. Seulement, à partir de Médine, là où le prophète va connaître physiquement ce que sont les Juifs, les rabbins juifs, les Juifs médinois, à ce moment-là, effectivement, il y a un changement total, à savoir que les fils d'Israël ne sont plus les Juifs qui ont rompu l'alliance, mais ça devient les croyants musulmans. Il y a un changement total. Le prophète, tout d'un coup, se dit, mais après tout, les fils d'Israël, pourquoi ça ne serait pas les bons musulmans ? Et de même qu'il a cessé au début à Médine de se tourner vers Jérusalem pour prier, et c'est demandé qu'on se tourne vers la Mecque, il a cessé de dire que les fils d'Israël, ce sont les Juifs. Les fils d'Israël, ce sont ceux les plus pieux auprès d'Allah, c'est-à-dire les musulmans. Et c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Les pieux musulmans le savent. Père Samuel.
Israël, c'est un État démocratique en Orient. Elle accueille tout le monde. Le problème, le loup est dans la bergerie. C'est-à-dire qu'il y a presque 1 million d'Arabes musulmans, même plus, en Israël même. Alors là, on ne peut pas avoir confiance à l'islam. Prenez par exemple à Jérusalem, il y a une école talmudique. Le chauffeur de cette école, c'est un musulman. Le 6 mars 2008, il a massacré 8 élèves musulmans. Donc, attention, 8 élèves juifs de l'école talmudique. Donc, le chauffeur de cette école talmudique était musulman. Il a massacré le 8 mars 2008, 8 élèves juifs. Donc, attention, méfiance, vigilance. On ne peut jamais avoir confiance à l'islam, même un serviteur, quand il va servir quelque part. Attention, danger.
Ce que veut dire le Père Samuel, c'est que ce ne sont pas, il ne stigmatise pas les musulmans en disant cela. Il dit simplement que si les musulmans sont bien islamisés et se reportent au Coran et au texte, pour eux, les juifs sont des infidèles qui ont falsifié leurs écritures. Et donc, pour eux, le fait de les tuer, ils auront une place privilégiée au paradis. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et les juifs de gauche d'Israël ne le comprennent pas, ne veulent pas l'admettre. Ils disent, oui, c'est un problème entre peuples, c'est un problème politique, c'est un problème intellectuel, c'est un problème, c'est un problème. Non ! Il y a dans les textes musulmans l'impossibilité pour les juifs de vivre en n'étant pas émis, c'est-à-dire en n'étant pas soumis. Et le fait que les juifs relèvent la tête et, je puis dire, se comportent en conquérants, se comportent de manière triomphale, c'est insupportable pour les juifs, pour les musulmans. Et c'est insupportable aussi l'existence même de l'État d'Israël. C'est une verrue au milieu des pays arabes, parce que si l'État d'Israël est respecté dans sa judéité, alors ça veut dire que l'islam s'est
trompé. Oui. Madame Delcambre, est-ce que vous pouvez nous dire, juste répéter exactement que veut dire dhimmi, s'il vous plaît, pour le bien-être dhimmi, des auditeurs.
Le problème, c'est que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les gens du livre. Et les gens du livre, Al-Kitab, ce sont les juifs et les chrétiens qui sont l'objet d'une protection. Mais comme le dit très bien Harwell le Jeune sur notre forum, que veut dire protection, un peu comme un maquereau qui protège une pute, c'est-à-dire c'est le fait de protéger, et contre qui, dit très bien Jacques Ellul, contre les musulmans eux-mêmes. Alors j'aime bien qu'on dise qu'on protège, on protège contre les musulmans, parce que si on laissait faire, eh bien, quick, les juifs passeraient de vie à trépas. Alors il faut cesser cette hypocrisie. Non, les juifs ne sont pas des persona grata dans l'esprit de l'islam militant.
D'accord. Voilà, donc je reviens sur ce problème. Donc il faut bien se rappeler que les juifs en pays musulmans ont existé d'une façon, ont toujours existé, mais toujours en tant avec un statut d'inférieur. Et c'est ce statut d'infériorité qu'on appelle le statut du zimmi. Contre qui, contre quoi ? Bien contre les exactions que les musulmans pourraient commettre à leur rencontre. Disons que les juifs et les chrétiens bénéficient d'une protection de la part du pouvoir musulman, mais à la moindre incartade, leur bien et leur vie pouvaient se retrouver à la merci de n'importe quel musulman. Et donc ce système de la zimmitude, hein, comme on pourrait l'appeler en français, a persisté jusqu'à l'arrivée des Européens dans le monde musulman au XIXe siècle.
Et avant que le Père Samuel ne prenne la parole, il faut savoir ce que signifie ce statut d'inférieur. C'est-à-dire que si un musulman rencontre un juif ou un chrétien sur le trottoir, le juif ou le chrétien doivent quitter le trottoir et aller dans la rue. Le juif ou le chrétien ne doivent pas monter à cheval, mais monter sur un âne, et encore monter en Amazone, comme une meuf, comme une femme. C'est-à-dire ne doivent pas construire des églises plus hautes que les mosquées, ne doivent pas mettre les mêmes vêtements, ne doivent pas... Et c'est tout ça que le père Samuel a subi, que sa famille a subi, et c'est la raison pour laquelle, quand vous l'entendez parler, et qu'il entend le discours lénifiant et totalement mensonger de certains intellectuels musulmans en Europe, le père Samuel dit « Oh là, arrêtez !» Moi, j'ai vécu, les miens ont vécu, ils ont subi, ils ont payé. Une personne me dit.
Les musulmans, ils ont conquis les pays chrétiens, les pays européens, par exemple, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Syrie, Turquie, Jérusalem, Jordanie, Irak. Et tous ces habitants chrétiens et juifs s'appelaient des vimis, c'est-à-dire tolérés, mais pas libres. Ils doivent payer l'impôt. Ils n'avaient pas le droit de... saluer un musulman, de dire salam alaikum. Il n'avait pas le droit de bâtir des maisons plus haut que des maisons musulmans. Il n'avait pas le droit de marcher quand il pleuvait parce qu'il disait les habits des non-musulmans sont sales et ils vont salir la terre islamique. Donc, effectivement, quand Mahmoud Ahmadinejad dit il faut éradiquer Israël, démolir Israël, barder Israël, balayer Israël de la géographie de la terre, moi, je crois, si Mahmoud Ahmadinejad, si les Iraniens ont les moyens, effectivement, vont balayer Israël vraiment de la terre. Et Menachem Begin, le premier ministre israélien, disait, si quelqu'un te dit, je te tue, crois-le. Je crois, nous devons croire à Mahmoud Ahmadinejad. Quand il a le nucléaire, il va absolument démolir Israël complètement. Donc, vigilance, je dis aux Canadiens, aux Européens et aux Américains, tout particulièrement aux Américains, aux Canadiens, et aussi aux Israéliens. Les Européens, c'est vrai, sont lâches. Ils croient tout ce que les musulmans disent. Le musulman ne peut jamais dire la vérité.
Êtes-vous convaincu, Père Samuel, Père Samuel, êtes-vous convaincu que, par exemple, pour prendre le président de l'Iran, êtes-vous convaincu qu'il utilisera la bombe atomique? Je pose la question, dans le fond, à vous trois. Êtes-vous convaincu qu'il utilisera la bombe atomique contre Israël?
Je suis sûr et certain. Je suis absolument certain parce que Mahomet a dit... vous tuerez tous les juifs, même s'il reste un juif derrière une pierre, la pierre dira, musulman, vous avez oublié derrière moi un juif, venez tuer-le. Donc la fin du monde ne peut pas arriver, sauf si on va massacrer les juifs dans la tradition islamique chiite. Il est écrit, oui, je crois formellement et résolument.
Oui, donc l'influence de la religion musulmane en Iran n'est plus à démontrer depuis l'avènement de la République islamique en 1979. Donc, il faut bien se mettre en tête qu'il y a des paroles de Mahomet, des versets du Coran, qui appellent ouvertement à faire une guerre totale aux Juifs. Et donc, notamment, la parole de Mahomet que le père vient de citer, donc, vous tuerez tous les Juifs au point que si l'un d'eux se cache derrière une pierre, la pierre criera « Musulman, voilà un Juif derrière moi, ici tu l'as oublié, viens, tue-le ». Donc, tout ça, c'est présent dans l'imaginaire collectif musulman. Et le statut du Vimy qu'on vous a rappelé en quelques mots a donc pesé sur les Juifs et les chrétiens pendant des siècles, mais plus encore sur les Juifs. Pourquoi ? Parce que les chrétiens avaient, disons, des soutiens en Europe, puisque les puissances occidentales étaient capables d'exercer une certaine pression sur le pouvoir musulman pour essayer d'adoucir quelque peu la condition des chrétiens en pays d'islam. Mais les Juifs des pays d'islam n'avaient pas, eux, d'État en Europe qui aurait pu lui aussi peser sur les pouvoirs musulmans. D'accord. Donc les Juifs ont été encore plus méprisés que les chrétiens. Et c'est de ce fait-là que, quand Israël a été fondé en 1948, ça a été vraiment un choc pour les musulmans. Eux qui avaient méprisé les Juifs pendant des siècles, eux qui avaient vécu d'une façon supérieure aux Juifs, eux qui avaient toisé, snobé les Juifs pendant des siècles, voilà tout d'un coup que maintenant les Juifs deviennent leur égal. Voilà tout d'un coup que les Juifs deviennent eux aussi une puissance, une nation souveraine, capable de discuter d'égal à égal avec les musulmans. Et pour c'est une catastrophe pour eux. C'est inimaginable que des Juifs méprisés, humiliés, haïs, puissent devenir tout d'un coup des citoyens à part entière, comme les musulmans. Et depuis lors, il y a une frange non négligeable de musulmans qui se sont jurés de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël. Et ils lutteront jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'Israël soit complètement rayé de la carte, comme par exemple Ahmadinejad, le président iranien, l'avait déclaré il y a peu.
Seulement, il y a actuellement en Europe et aux États-Unis une frange d'intellectuels musulmans qui ont décidé de faire de la désinformation et des mensonges. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de parler de sionisme, mais de sionisme musulman. Par exemple, le cher Palazzi, qui est un Italien, Hadi Palazzi, est un religieux qui affirme son soutien à Israël. Mais c'est un mensonge très habile, parce que ça veut dire qu'ils vont récupérer Israël de manière musulmane. C'est-à-dire qu'ils vont parler de sionisme musulman. Et Daniel Pipes a parfaitement compris, lui qui est assez sioniste, il parle de ce phénomène qui fait que l'importance de Jérusalem pour les Juifs et le rattachement est maintenant, cette importance est usurpée par les musulmans palestiniens. Il y a une récupération du sionisme pour en faire un sionisme musulman. Et la tromperie, c'est quoi? Je m'adresse à des gens comme Abdelkader Hamlou. La tromperie, c'est quoi? C'est que l'amour juif de Sion, Sion, ça veut dire Jérusalem, Sion, est fondé sur la judéité, c'est-à-dire sur le fait d'être juif. Tandis que les musulmans disent « Ah, mais on parle des Banu Israël, on parle des fils d'Israël dans le Coran, donc les vrais fils d'Israël, ce sont les musulmans. » Et comme les juifs ne savent pas ce qu'il y a dans l'arrière-pensée, dans l'inconscient des musulmans, ils disent « Ah, c'est merveilleux, il y a des intellectuels musulmans qui sont sionistes. » Ils ne sont pas sionistes. Ils disent « Le sionisme, on peut considérer qu'il y a un sionisme dans le Coran, » parce que le Coran parle des Banu Israël, mais gros menteurs, ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que le sionisme juif repose sur la judéité.
Madame Delcamp, en rafale, je m'excuse de vous interrompre, Madame Delcamp, mais en rafale des questions qui nous proviennent via le live @rocket.com, c'est souvent le même genre, les mêmes questions qui reviennent. Mais que peuvent-on faire les Européens et les Américains pour empêcher les musulmans de massacrer les Juifs? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On parle, on discute.
Ma solution avant. Moi, je dis revenir au texte, les montrer, les exhumer, en faire la publicité de façon à ce que les mensonges échouent contre ce qui est la réalité.
Je crois à la solution finale de chasser tous les Arabes musulmans de l'Occident et du Canada. Parce que c'est les Européens et même les Américains, les Canadiens vont avoir des problèmes avec l'islam absolument. Mais l'islam n'est pas pressé. Il est écrit dans le Coran, chapitre 5, verset 56, tout ce qui n'est pas musulman, eh bien, tout ce qui est musulman sont des partisans de Dieu. Les non-musulmans sont des partisans du Satan. Il est écrit, chapitre 58, verset 19. Donc, les partisans du Satan, quels qu'ils soient acculés, tuez-les. Chapitre 33, verset 61, dans le Coran. Donc, Maïmonide, c'est un savant juif, il est mort en 1204, il disait, dans l'histoire, les musulmans nous ont avilis, démolis, discrédités, et maintenant, effectivement, ils continuent à démolir les juifs, surtout en Europe. Si les musulmans deviennent forts en Europe, croyez-moi, ils vont inventer même ce que Hitler a inventé. Alors il faut méfier des musulmans qui sont en Europe.
Ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de musulmans en Europe. Et je crois que dans un premier temps, ce qui est bon à faire, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut regarder l'islam tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il faut arrêter d'idéaliser. Il faut voir la vérité en face. La vérité par rapport au texte, la vérité par rapport à l'histoire, ouais. Et parler franchement. Et au moins, c'est déjà une première étape importante.
Monsieur Bourlard, je suis bien d'accord, OK? Monsieur, je suis très d'accord avec ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au niveau du portefeuille que ça se joue, hein? Au niveau du porte-monnaie que ça se joue.
L'argent, oui, est le nerf de la guerre, oui.
Est le nerf de la guerre. Alors, nécessairement, là, il faut, oui, parler de l'histoire, oui, parler des textes, mais aussi faire comprendre qu'il y a des gens qui sont musulmans, qui sont très influents, qui ont de gros portefeuilles et qui nécessairement jouent une partie sur la monnaie. Alors tu fermes, excusez-moi, je vais être très cru, mais tu fermes ta gueule et je mets de l'argent dans ta caisse, hein, dans ta caisse électorale.
Mais je pense qu'il y a une lutte effectivement qui va se jouer à base d'argent, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu paix sur lui et bénédiction, a dit à ses adeptes, et c'est toujours valable, sachez que la terre n'appartient qu'à Dieu et à son envoyé. Et donc, par conséquent, ils sont l'islam est en quelque sorte va à la conquête du monde. Mais si les Européens, les Américains connaissent vraiment les textes, ils connaissent donc l'inconscient collectif musulman. Et à ce moment-là, ça sera l'argent américano-israélo-européano, ce que vous voulez, cristiano, hein, contre l'argent musulman. Si ça se doit se faire à coup de dollars ou à coup de billets, eh bien ça se fera à coup de dollars, mais sachez qu'en réalité, l'inconscient est très important. Si on ne sait pas ce que pensent les musulmans, on ne peut pas comprendre.
Oui, c'est ça justement. Je dis que l'important, c'est que les Occidentaux prennent conscience de ce qu'est l'islam, de ce que sont les textes fondateurs de l'islam, ce qu'est l'histoire du monde musulman. Et c'est à partir de ce moment-là, en prenant conscience, que la politique va changer. Mais on ne peut pas leur faire changer comme ça, de but en blanc, si on ne leur fait pas comprendre ce qu'est l'islam.
On a des questions.
Le prophète... Oui, je vous écoute.
Excusez-moi, on a des questions de la part des auditeurs, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Le temps va vite. Alors, par exemple, la question est pour Madame Delcambre. Excusez-moi, Père Samuel. Désolé, mais on demande à Madame Delcambre. On trouve des textes parlant du Coran sioniste. De quoi s'agit-il exactement? D'une reconnaissance d'Israël ou d'un Israël qui serait musulman?
Non. Ce dont il s'agit, c'est très simple. C'est-à-dire que le Coran parle de Moïse, parle des fils d'Israël, il en parle dans plusieurs sourates, la sourate 5, verset 20, verset 26, la sourate 17, verset 4. Effectivement, on parle des fils d'Israël. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que les fils d'Israël, qui au début sont effectivement les Hébreux, les Juifs, à partir de Médine, ce ne sont plus les Juifs, car il est bien dit dans le Coran que les Juifs ont rompu l'alliance, ils ont tué leurs prophètes, ils se sont comportés comme des... Vous voyez, il est dit dans le Coran, parce qu'ils refusèrent d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, c'est Allah qui parle, soyez des singes abjects, qiradatan khasi'in, des singes, gorilles, c'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, donc, comment peut-on déclarer peuple élu des gens qui sont considérables à des orang-outans?
Bonne imitation, Madame Delcambre.
Oui, je sais, je fais des efforts.
Mahomet a dit, l'islam domine et ne serait pas dominé. Un jour viendra, quand ils deviendront majorité, ils vont écraser, ils vont bafouer, ils vont dominer, ils vont persécuter les Européens et les Canadiens et les Américains au cœur de l'Occident même, et tout particulièrement Israël. Donc Mahomet, c'est le bon modèle des musulmans. Il est écrit dans le Coran, chapitre 33, verset 21. Et Mahomet dit textuellement, « Je suis le prophète du carnage, je suis un rieur sanglant. Lorsque vous rencontrez les Juifs, chapitre 33, verset 61, tuez-les partout où vous les trouverez. C'est inadmissible. Nous devons absolument, absolument défendre Israël. »
Peut-être oui, moi, une question, j'aurais une dernière question en terminant. À vous trois, à tour de rôle, Madame Delcambre, Joanne Bourlard et Père Samuel, croyez-vous vraiment que dire la vérité sur les textes sera suffisant? Ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux une armée israélienne très puissante et des politiciens ayant la volonté de se battre? Question d'auditeur.
Oui, bien sûr. Évidemment, un État pour exister doit avoir une armée, et tout particulièrement Israël, qui est entouré d'États qui sont loin d'être des amis. Mais je veux dire que sur le plan intellectuel, enfin, on n'est jamais aussi fort que quand on est convaincu d'une chose. Donc, pour être convaincu que l'islam militant représente un danger, ben, il faut le connaître, cet islam. Il faut en connaître les textes, il faut être sensibilisé à cette culture, à cette façon de penser qui n'est pas la nôtre et qui est diamétralement opposée à la nôtre, je dirais.
Moi, c'est-à-dire, c'est en étant persuadé, en étant convaincu de la réalité des textes que j'en suis venu à soutenir Israël. Israël est en danger parce que dans les temps, il n'a pas le droit d'exister. Donc par conséquent, je m'excuse, même si vous avez toutes les armées du monde, on croira qu'on se bat entre des gens de la même époque, comment dirais-je, civilisés au sens où on l'entend de la façon moderne. Non, ce sont la mentalité médiévale islamique qui s'exerce dans la plupart des cas. Mon seul souhait, c'est que les musulmans deviennent de plus en plus athées ou agnostiques parce qu'ils sont vraiment convaincus, alors ils représentent vraiment pour les autres un danger.
Eh bien, l'islam, selon le Coran, les musulmans sont racistes, absolument racistes. Prenez par exemple, dans le Coran, livre sacré des musulmans, il est écrit chapitre 5, verset 51, chapitre 5, verset 51, sourate 5, verset 51, le Coran dit « Ne prenez jamais les juifs et les chrétiens comme des amis, ils sont des pervers. » Donc, ils considèrent des non-musulmans des pervers, c'est inacceptable, c'est du racisme même.
Voilà, donc Israël a vraiment intérêt à se défendre et il y a beaucoup d'Israéliens qui sont conscients du problème et qui sont conscients de ce qu'est l'islam. Mais le problème, c'est qu'ici, en Occident, beaucoup de gens sont dans l'ignorance de ça. Et donc Israël a besoin d'une armée forte et a besoin aussi d'être soutenu de l'extérieur. Mais pour être soutenu de l'extérieur, il faut que ces gens de l'extérieur soient conscients de tous ces enjeux.
Et pour reprendre ce qu'a dit le Père Samuel, qui est loin d'inventer, dans la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, il est dit: « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. » Et en arabe, « Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhizul yahuda wa nasara awliya » C'est-à-dire, « Ô vous, ceux qui croyez, ne prenez pas al-yahoud les juifs, wa nasara et les chrétiens, awliya » ça veut dire « comme alliés ». Donc je crois qu'il n'a rien inventé, il dit ça par cœur, il n'a pas de Coran devant lui, bravo mon père. Mais pour vous dire que même si c'est un ton qui est un peu violent, le père Samuel ne dit que ce que disent les textes.
Effectivement, vous avez raison madame Dalcambre. Effectivement, nous disons, nous relisons, nous devons dire tout ce que le Coran a dit, tout ce que Mahomet a dit, sont des choses absolument incontournables. Donc par exemple, quand Mahomet dit « Tuez-les partout où vous les trouverez, les non-musulmans, chassez-les d'où vous étiez chassés. Croyez-moi, un jour, les musulmans vont chasser les Espagnols d'Espagne, vont chasser Israël d'Israël, les Israéliens d'Israël, vont chasser les Français de Poitiers. » Il est écrit dans le Coran, chapitre 2, verset 191-192, « Chassez-les d'où vous étiez chassés, tuez-les partout où vous les rencontrerez. Lorsque vous rencontrez les infidèles, infidèles, soit athées, soit israéliens, soit juifs, soit chrétiens, sont des infidèles. Tuez-les partout, vous les trouverez. » Chapitre 47, verset 4, dans le Coran, livre sacré des musulmans. Absolument.
Et ce que vient de dire le Père Samuel, dans la sourate 2, Al-Baqara, la vache, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Et en arabe, « Waqatilou hatta la takuna fitna »
Vous parlez de Jérusalem, madame Dalcambre. Jérusalem, c'est un état, c'est un capital d'Israël depuis le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, les musulmans désirent chasser les Israélites de Jérusalem. C'est inacceptable. D'ailleurs, il est écrit dans le Coran, chapitre 48, verset 16, « Combattez-les ou bien ils doivent se convertir à l'islam. » C'est vraiment l'intolérance.
J'aimerais dire en terminant, dans le fond, que, juste comme ça, les Occidentaux viennent d'accorder l'indépendance au Kosovo musulman. Je pense que c'est le début de la fin, Mme Delcam, Joanne Bollard et Père Samuel.
Mais justement, voilà, c'est la preuve de l'ignorance et de l'inconscience de nos dirigeants européens. S'ils avaient été instruits des textes fondateurs de l'islam, s'ils avaient été instruits de la civilisation arabo-musulmane, ils n'auraient jamais accordé l'indépendance au Kosovo. Parce que accorder l'indépendance au Kosovo, c'est ouvrir la porte à d'autres indépendances. On va avoir, d'ici quelques années, on va avoir un éclatement épouvantable. Même les musulmans qui se trouvent ici en Europe ou au Canada et qui seront regroupés en majorité dans des villes ou des régions, ben, tôt ou tard, ils demanderont eux aussi l'indépendance. Si on refuse d'intégrer la charia au niveau national, eh bien, ils vont dire, bien, nous, on applique notre loi chez nous. Et ils vont créer des zones de non-droit. Sur le plan occidental, ils vont créer des zones de droit musulmans. Voilà, c'est pour ça que je dis que les dirigeants européens et les dirigeants occidentaux et les occidentaux en général doivent être mis au islam et non pas l'islam dont ils rêvent.
Et je redirais pour rebondir sur la sourate 48 qu'a cité le Père Samuel, verset 29, « Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. » Celui qui sait lire, franchement, s'il continue à être optimiste, alors il vaut mieux lui prendre une place à l'asile d'aliénés.
Le but. Allez, vous êtes là, Ismaël.
Oui.
Le but des musulmans, c'est de détruire l'État d'Israël. Mais pour le moment, disons, techniquement, ils ne peuvent pas. Mais un jour va venir, et l'islam n'est pas pressé. Il est écrit dans le Coran, ne faiblissez pas. Quand vous êtes faible, faites la paix. Quand vous devenez fort, il ne faut jamais faire la paix. Chapitre 47, verset 35.
Alors, je voulais ajouter un détail très important, c'est oui. que si les musulmans veulent absolument supprimer Israël de la carte, c'est non seulement parce qu'ils ne supportent pas que les Juifs redeviennent un peuple souverain, mais c'est aussi le fait que les Juifs ont reconstitué leur nation sur une terre qui autrefois était dominée par les musulmans. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, je reviens sur ce verset coranique qui dit aux musulmans, chassez les infidèles des terres d'où ils vous auront chassés. Donc, Israël constitue vraiment une épine dans le pied du monde musulman et c'est inacceptable. Israël, un État juif au milieu sur une terre musulmane, pour un musulman, c'est inconcevable.
Et alors, c'est comme de nous faire croire que le mot palestinien existe. Hein? C'est comme ces gens-là essaient de nous pousser parce qu'ici les Québécois, Marie Delcambre, Père Samuel et Joanne Bourlard, eh bien, les Québécois adorent soutenir les fameux Palestiniens lorsqu'ils se font exploser.
Alors, les Palestiniens, c'est une entité de création récente. Le mot en lui-même ne date que du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'empereur Adrien qui a créé la province de Palestine pour mater les Juifs une bonne fois pour toutes. En 135, il a fait raser le temple de Jérusalem. Il a chassé les Juifs de cet endroit et il a recréé un territoire qu'il a appelé Palestine. Ensuite, ce mot Palestine aujourd'hui, pour reprendre l'époque contemporaine, le palestinisme, je veux dire, le nationalisme palestinien n'est apparu qu'à la fin des années 60. Voilà. Parce que jusqu'alors, qu'est-ce qui prévalait ? C'était la reconstitution d'une grande nation arabe. Donc, du Maroc jusqu'à l'Irak, c'était ça la priorité des musulmans, des arabo-musulmans jusque dans les années 60. Mais quand on a vu l'échec des pays arabes à se mettre d'accord, notamment dans la lutte contre Israël en 67, notamment la guerre des six jours, où Israël a mis en pièces tous ses ennemis, là, l'idée d'une nation arabe a fait long feu, donc elle a périclité. Et c'est à partir de ce moment-là que la nation palestinienne a commencé à exister, mais d'une façon tout à fait fortuite et je dirais artificielle.
Et pour donner raison au Père Samuel, qui l'a cité de mémoire dans la sourate 47, Mohammed, verset 35, « Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus forts. » Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Il est dit en arabe, Allah tahinu wa tad'ou ila salm wa entum al-a'laoun. C'est-à-dire que ça veut dire quand vous êtes les plus forts, alors il ne faut pas faiblir, allez-y. C'est grave, ça veut dire quand vous êtes faible, calmez-vous petit. Et puis dès que vous devenez fort, allez-y.
Effectivement, en Orient, les musulmans désirent fonder vraiment un empire musulman sans juifs, sans chrétiens. Et ça va arriver s'il continue comme ça, parce qu'il est écrit dans le Coran, chapitre 3, verset 152, il est écrit « Anéantissez vos ennemis ». Donc, tout ce qui n'est pas musulman, c'est un ennemi de musulman éternellement. Et il est écrit, chapitre 48, verset 16, chapitre 46, verset 16, « Vous les combattrez ou bien ils se convertiront à l'islam en avant ». C'est ça l'islam.
Je vous remercie. Je dois tout simplement mettre fin à l'entrevue. J'ai même donné plus que prévu. Mais on se reparle lundi prochain. Est-ce que c'est possible? Toujours dans le même système?
Sans problème.
Je vous remercie à vous trois. Père Samuel, Anne-Marie Delcambre, Joanne Bourlard.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous et tous les Canadiens.
Merci beaucoup. Merci à vous. On se reparle lundi prochain. Au revoir.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors, c'est simple comme ça. Christian, c'était Anne-Marie Delcambre, c'était le Père Samuel et Joanne, spécialiste sur l'islam que l'on va écouter à chaque lundi. C'est très intéressant, Christian, quand même. Oui. Ça nous fait comprendre et saisir de plus en plus de trucs, nous ici, occidentaux, parce que c'est ça que nous sommes, nous les occidentaux qui... ne comprenons absolument pas, mais qu'est-ce qu'ils font tranquillement? petit à petit, ils entrent dans nos vies, nous font croire que c'est normal un foulard sur la tête, nous font croire que c'est normal de prier un peu partout, et que pourtant...
On ne comprend pas leur cause en plus. Hein. Puis on là, on commence tranquillement à avoir des solutions.
Et là, on s'aperçoit tranquillement qu'on ne satisfait jamais leurs attentes, etc., Christian. Alors, je pense qu'il est bien d'avoir des gens spécialistes comme ça qui nous informent et qui ne sont pas de leur côté, mais bien d'un autre côté, hein, l'autre côté de la médaille, non pas le côté on ne les comprend jamais, on ne les saisit pas, on ne veut pas faire notre bout de chemin avec eux. Nous sommes racistes, nous sommes islamophobes, un nouveau mot qu'ils ont inventé, islamophobie, hein? Islamophobe, nous faire passer pour des gens crétins qui ne sont pas au courant de ce qu'est la religion. Ce n'est que de la religion, ce n'est pas de la violence, mais de la religion. Hey, voyons. 9h40.